Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
C'est parti pour Tadej Pogacar. Vingegaard est battu. Tadej Pogacar est facile. Il se promène. Il ne fait pas de cadeau aujourd'hui. C'est pour lui la victoire pour Tadej Pogacar.
Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est un peu comme le ketchup, tu sais, à force de secouer, quand ça finit par couler, ça coule beaucoup.
Non, bah ça y est, c'est terminé. Tadej Pogacar désormais tout seul en tête.
Peut-être qu'après la première étape de montagne, il n'y aura plus aucun suspense ce soir sur la victoire du Tour.
Faut déjà aller titiller le goujon sur les autres grandes courses.
J'ai un dîner chez mes beaux-parents et un stock de chaussettes dépareillées dont il faut que je m'occupe depuis longtemps. Donc je vais faire l'impasse.
Tadej Pogacar et son maillot jaune ont décidé de placer la flèche et ça fait mal, ça fait très mal. Derrière, personne n'arrive à suivre.
Il y a un profond danger de boule, il y a quelque chose qui ne va pas.
Est-ce que tu peux démêler le vrai du feu? Tout va bien.
Nouvelle attaque de Tadej Pogacar. Richard Carapaz et Lenny Martinez, en bons grimpeurs qu'ils sont, essayent de s'accrocher. Mais il y a un mètre, il y a deux mètres. Ça y est, il est parti, il se retourne et il va sans doute mettre un gros coup de massue sur toute son adversité.
L'an dernier, on a fait suspense jusqu'au départ parce qu'on ne savait pas s'il allait y aller.
Personne ne peut résister aux accélérations de Tadej Pogacar. Même avec 3 minutes 30 d'avance au pied de l'Alpe d'Huez, personne ne peut résister au retour de cet ovni du cyclisme mondial. 5e victoire d'étape sur les routes de ce Tour. C'est tout simplement incroyable ce que fait Tadej Pogacar.
Tous les terrains conviennent à Tadej Pogacar. Pogacar. On disait à l'instant avec
vous avez reconnu la chèvre de Simon Dutin, hein. La chèvre, c'est pour...
C'est celle du goat, hein, normalement, oui. Pas celle du...
Le goat, hein, c'est la traduction d'or en anglais. Le goat, c'est le greatest of all time, le meilleur de tous les temps. Et c'est peut-être dans la discussion, Tadej Pogacar. Entre ici, Tadej, au Panthéon des vainqueurs de 5 Tours de France. Le record, comme Antil, comme Merckx, comme Indurain, comme Hino. Le Slovène de 27 ans a été glouton encore cette année. 5 victoires d'étape pour l'instant. Et une concurrence reléguée très loin après l'abandon de son principal rival Vingegaard. Le deuxième au général, Remco Evenepoel, est à 6 minutes 26. J'ai regardé, c'est le plus gros écart pour une victoire de Poggi sur le Tour, où il a battu cette année record sur record dans la montée du Tourmalet ou encore dans les 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Il voudra sûrement gagner, oui, je vous le laisse entendre, sur la 21e et dernière étape aujourd'hui, 89 km dans Paris, hein, puisque les forces de l'ordre sont mobilisées sur les incendies. Donc on sera seulement dans Paris entre 17h50 et 19h45 avec 3 passages sur la côte de la Butte Montmartre. Les GG, je vous pose cette question. Pogacar qui file vers son 5e sacre, est-ce qu'il n'est pas devenu trop écrasant? Marc Madio.
Non.
Simon Dutin.
Si, mais quel est le problème?
David Douillet.
Non, moi je pense pas, non, pas encore.
On va avoir un peu de nuance dans un instant sur la route du Tour, vous allez voir. D'abord, on rejoint Maria Azé qui nous a fait vivre ce Tour en plein cœur de la course sur la moto RMC. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Maria.
Maria, juste avant de prendre le train, comme avec toute l'équipe de l'Intégral Tour pour rejoindre la capitale.
Il vient d'arriver là, il est juste devant nous.
Ah, mais attention, ne le ratez pas quand même, on a besoin de vous, hein, ce soir. Que dit Pogacar de son accomplissement et que disent ses adversaires?
Bah, il est satisfait, évidemment, hein, le Slovène qui va probablement s'imposer pour la 5e fois sur le Tour de France. D'abord parce qu'il a remporté 5 étapes, peut-être 6 aujourd'hui, mais aussi parce qu'il a pu aider son coéquipier Isaac Del Toro à monter sur le podium du Tour de France.
J'ai vraiment fait un bon tour. Toute l'équipe a été super, vraiment super bien. Mais il y avait aussi un peu de malchance chez les concurrents. C'est le Tour, en 3 semaines, beaucoup de choses peuvent arriver. Et nous avons réussi avec l'équipe. Et demain, il reste les 88 derniers kilomètres à Paris. Il y aura un dernier spectacle.
There will be the one last show.
Isaac Del Toro, le maillot blanc du Tour de France, est reconnaissant évidemment envers son coéquipier, son leader, qui s'est mis à son rythme hier pour ne pas qu'il décroche alors que Remco Evenepoel avait attaqué.
La situation dans laquelle l'équipe s'est trouvée n'est pas facile, mais c'est une équipe très forte et le plus dur pour moi était d'être au niveau. Tadej s'est dévoué pour m'aider, je n'ai jamais vu ça. Bien sûr, j'ai ressenti beaucoup de pression et je suis très heureux d'avoir pu la gérer comme ça. Je suis encore choqué par ce qu'a fait notre grand coureur qui est Tadej. Je ne peux que le remercier. Je ne l'ai même pas demandé, cela vient de lui, c'est sa personnalité. Mes coéquipiers placent beaucoup d'espoir sur moi. J'essaie de saisir les opportunités comme elles arrivent et de faire au mieux.
Du côté des adversaires, ce Tour de France a fait mal dans les têtes. You are insane, traduisez, tu es incroyable. People Success à Pogacar lors de la première étape de l'Alpe d'Huez. Je suis juste derrière celui qui marque l'histoire, a déclaré Remco Evenepoel, deuxième du général hier. Dans le peloton, beaucoup considèrent que ce Tour de France est le plus difficile qu'ils aient connu, notamment à cause de la chaleur, mais aussi à cause du rythme et de la loi imposée par Pogacar et ses coéquipiers pendant 3 semaines.
Merci beaucoup Maria. On te laisse rentrer vers Paris. On te retrouve sur la moto RMC, évidemment, sur les Champs-Élysées. Tout à l'heure, dans l'intégral tour, Pogacar est-il devenu trop écrasant? Vous participez au 32-16 et vous envoyez vos messages sur WhatsApp 06-12-424-424. Tiens, Sylvain me dit déjà, non, il n'est pas trop écrasant. Dans tous les sports, il y a eu quelqu'un comme ça. En tennis, Nadal, en judo, Rinner ou un certain David Douillet, par exemple, qui est avec nous ce matin. On va en parler dans un instant et on rejoint l'équipe de l'intégral tour. Christophe Cessieux et Jérôme Coppel avec nous. Salut les gars!
Salut
bonjour
à tous.
Salut.
Bon, vous avez bien bossé, les amis. Vous méritez d'arriver à Paris comme des rois, un peu comme l'a laissé entendre Marc et déposer les armes avec tout le monde.
On est plutôt comme des clochards sur le quai de la gare de Grenoble, sous la flotte, avec le scoop qui marche et tous les gens qui se regardent, qui nous regardent en disant mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui parlent dans un casque.
Le scoopy, c'est notre moyen de transmission. Mais c'est vrai que c'est ça aussi le tour. Il faut qu'on comprenne, hein, les auditeurs et auditrices. On est constamment en déplacement. La logistique et la complexité de la logistique en fait partie. Les gars, Pogacar est-il devenu trop écrasant? Tiens, Christophe, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oui, moi je trouve effectivement que ce tour a confirmé sa trop écrasante supériorité. On s'en doutait avant même le départ du tour, on se disait qu'il y avait peu de suspense. Il y avait que notre ami Pascal Duprat qui disait « Mais oui, vous allez voir le suspense, Vingegaard va s'accrocher ». Ben oui, mais on a vu ce que s'est passé. Le popcorn a explosé. Bon, malheureusement, il a été blessé, donc il est sorti sur chute. Mais c'est vrai que cette domination est devenue outrancière. Et aujourd'hui, quand tu es au départ du tour, tu te dis tu sais déjà qui va gagner. Il y a plus aucun suspense et jour après jour il assomme un peu plus le Tour de France. Moi je préférais, je suis désolé mais c'est sans doute mon côté français qui me fait dire ça, je préférais quand Vingegaard accrochait Pogacar en 2022, en 2023, quand celui-ci se retournait de temps en temps et arrivait à décrocher d'autres victoires, il avait un côté plus humain. Là c'est plus un humain, c'est un ovni Pogacar, et en plus il est tellement fort qu'il se permet de faire le train pour son équipier dans l'école. Ça on n'a jamais vu un maillot jaune faire ça pour un équipier. Donc si tu veux, là je pense qu'on a un peu dépassé les bornes. Et le problème c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Il a 27 ans. Il a 27 ans, il a un contrat jusqu'en 2030. Donc ça veut dire encore 4 ans comme ça. Mais comment on va faire? Comment on va faire?
Christophe,
finalement je vais prendre ma retraite.
Jérôme Coppel, qu'est-ce que t'en penses?
Bah oui, il domine largement de la tête et des épaules. Maintenant, il pourrait encore faire pire, parce que Christophe l'a dit, il a hier à l'Alpe d'Huez, il aurait pu encore gagner cette étape s'il décide pas d'aider Del Toro à rester sur le podium. Son équipe d'une manière générale domine, même si là elle a été un petit peu décimée, ça ne les a pas empêchés de dominer l'ensemble du tour. Et quand tu es capable de jouer entre guillemets sur deux tableaux, la victoire d'étape et de te permettre de rouler avec le maillot jaune sur le dos à 50 km de l'arrivée pour assurer la troisième place de ton coéquipier, oui, c'est que tu domines. Maintenant, le but d'un champion et du sport, c'est quoi? C'est aussi de dominer son sport. Ça existe tout le temps. On a Duplantis en saut à la perche. Dans tous les sports, on en a qui dominent. Et Tadej Pogacar, on ne peut pas non plus lui demander de freiner pour ne pas gagner, parce que nous, on veut avoir un peu de suspense. Il est quand même payé pour gagner des courses aussi. Il le fait très bien. Bah, finalement, il ne fait que remplir le job qu'on lui demande.
Pogacar est-il devenu trop écrasant? Marc Madio, t'as dit non. Alors c'est vrai, c'est intéressant, parce que avant le Tour de France, je me rappelle, on avait fait un débat ici. Est-ce que Pogacar n'en fait pas un peu trop? On n'était pas tous d'accord, hein, sur le fait qu'il voulait aller gagner partout autour de Suisse, écraser un peu la concurrence. Toi, tu trouves pas qu'il en fait trop?
Il n'en fait pas trop, tout simplement parce qu'il contrôle et maîtrise toutes les cases du fonctionnement du cyclisme moderne. Il a tout compris, il sait qu'il a besoin, pour gagner et être en sécurité, il a besoin de mettre tout le monde sous pression. Et je vais faire un parallèle avec le foot et ce qu'a fait Luis Enrique au PSG. Luis Enrique au PSG, il a mis le pressing. Pressing, pressing, pressing. Mais Pogacar retranscrit cela dans le cyclisme en mettant le pressing sur tout le peloton en permanence. Ce qui fait qu'il met la barre extrêmement haute au niveau des intensités. Et quand lui, il intervient, le terrain est dégagé. Et il n'a plus qu'à conclure tranquillement les actions de course. En fait, si on regarde ce dernier Tour de France qui s'achève, si je suis un peu sarcastique, je vais dire il y a un seul coureur qui a attaqué, un seul, Pogacar. Il a attaqué une fois. Et en une fois, tout le monde avait compris que c'était terminé.
Dans le Tourmalet.
Il a fait ça dans le Tourmalet. Après, il a mis tout le monde sous pression. Et en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est que derrière lui, alors certes, il y a eu Vingegaard qui a eu un souci avec la chute. Mais si on regarde bien derrière, il y avait 5 ou 6 coureurs qui se battaient avec leur computer et qui regardaient pendant 3 semaines pendant 3 semaines, ont regardé leurs compteurs et leurs watts. Ils ont additionné et soustrait de temps à autre quelques watts pour pouvoir souffler. Mais pendant 3 semaines, ils ont regardé leur computer. Ils ont fait le tour de la France avec le nez rivé sur le computer pour être capable de résister tant bien que mal à Pogacar et aller chercher les places sur le podium.
C'est quoi ? Ils ont regardé leur compteur parce qu'ils avaient peur d'être humiliés, en fait.
Mais ils pouvaient pas faire autrement. Mais ils étaient et pourtant. Si on analyse un tout petit peu la situation, on se rend compte de quoi ? C'est qu'on a des coureurs d'exception dans le peloton du Tour de France aujourd'hui. Il y a un niveau exceptionnel. Quand vous avez Evenepoel, Sexas et les autres, c'est des coureurs d'exception. Mais ils sont contraints par un coureur qui est encore au-dessus de la mêlée, qui les met tous sous pression, et ils sont tous dans la gestion, à part hier, où Evenepoel s'est permis une attaque dans le final pour se faire plaisir et quelque part se dire peut-être que demain, sait-on jamais. Mais le reste, tous les autres étaient sous la pression de Pogacar.
Et il a raison, Pogacar, en fait. Tu
mais
dis, là, toi.
C'est lui qui a tout bon, il a raison, il est le plus fort. Il met tout le monde sous pression, il maîtrise la situation et il va gagner où il veut, quand il veut, autant qu'il voudra. Par contre,
toi, ça te plaît, Marco ? Toi, ça te plaît ?
Non, ça ne me plaît pas. Venir. Il y a un seul moment dans la saison, une seule course. Ça ne s'est pas produit. Une seule course, face à un seul coureur. Et le seul coureur qui regarde pas ses watts, c'est Wout van Aert, et il a battu Pogacar à Paris-Roubaix.
Sur la course qui est immaîtrisable, en fait, celle qui ne se joue pas avec les oreillettes.
Il faudrait rendre le tour immaîtrisable.
Right.
Voilà.
Marco, tous les chemins mènent au fait qu'il faut enlever les oreillettes.
Ça pourrait être magnifique, ça, 3300 km de pavé.
J'imagine Christian Prudhomme, ce matin, une étape de 6000 mètres de dénivelé avec 55 secteurs pavés. On vient de les installer avec Thierry Gouvenou. C'est ça, la France. David, t'as été toi-même un dominant écrasant. Tu les as entendus, ces débats, peut-être te concernant. Ah, c'est trop facile. Ah, peut-être que David, il n'a pas de concurrence. Est-ce que ça te. Je te pose la question clairement. Est-ce que ça te gonfle qu'on ait ce genre de débat ce matin?
David, il leur bouffait le cerveau.
Mais Marc a tellement raison. C'est vrai, parce que quand tu arrives, et c'est ce que fait exactement Pogacar, à faire croire aux autres que ta méthode, c'est la méthode qui permet tout, alors que c'est complètement faux, hein, parce que sa méthode lui permet à lui tout. Et les autres tombent dans le panneau. C'est-à-dire que Marc, quand il explique qu'ils ont la tête rivée sur l'ordi en décortiquant leur watt, etc., etc. Pendant ce temps-là, ils pensent pas à aller lui croquer le mollet. Ils pensent pas à aller s'arracher. Ils pensent pas à aller au-dessus. Ils pensent pas. Ils vont pas aller défricher une terre inconnue.
Ils n'ont pas les moyens, David. Il est tellement au-dessus de la mêlée. Ouais.
Attends. C'est tellement facile de dire ça parce qu'ils l'ont pas fait. Oui. Je veux dire. Un athlète, c'est quoi ? Un athlète, un compétiteur, c'est quelqu'un qui va aller dans l'inconnu. Et l'inconnu, c'est là où tu vas faire la grosse performance. C'est là où tu vas t'arracher. C'est là où tu vas découvrir toi-même que tu es capable de...
C'est-à-dire que tu aurais voulu qu'il prenne des risques au risque de tout perdre, en fait, pour essayer de renverser le roi, quoi.
Il y a des éléments de base où là, techniquement, la technologie leur dit, voilà, vous pesez tant, vous faites ci, vous faites ça, vous développez tant, vous avez tant de muscles, etc., peu importe. Mais ok, ça c'est la base pour l'entraînement. Ok, mais à un moment donné, il y a la compète, et la compète, si tu sors pas des sentiers battus, si tu vas pas dans l'inconnu, t'es mort.
Mais il y a des enjeux financiers aussi, Remco Evenepoel. Il a besoin de
gagner en jeu. Il a 200 plus, tu peux plus aller au-dessus.
Parce que sinon... Non mais Pogacar, il impose. Oui, mais au moins il essaye. Pogacar, il impose son rythme et il impose son rythme de sa façon de faire, tu vois. Alors que et les autres essayent de copier. Il a raison. Il va continuer à gagner tant que les autres ne sortiront pas de cette ornière de. Ah oui, c'est lui qui a la solution, donc j'essaie d'appliquer cette solution et voir comment je peux évoluer là-dedans. Ils sont cuits parce que ça, il excelle dans cette solution.
Parce qu'il est trop fort, David, en fait. Il est trop fort.
Mais et qu'est-ce qu'il a une équipe qui lui permet de mettre tout le monde sous pression?
Qu'est-ce qui te dit? Oui, bien sûr, il le met sous pression avec ce système-là. Mais qu'est-ce qui te dit qu'un autre coureur ne va pas se découvrir avec un autre procédé, un autre système d'entraînement, une autre façon d'aborder la course, qu'il est capable d'aller le faire douter? Parce qu'en fait, c'est là où je voulais en venir. Le pire pour un athlète, c'est le doute. Voilà. Quand tu arrives à mettre le doute dans la tête de quelqu'un, il est cuit.
Et oui, mais
c'est exactement ce que fait
Simon.
On t'a pas entendu encore.
Est-ce que Pogacar est trop écrasant?
Il y a deux façons d'entendre ta question. Georges, trop écrasant, pourquoi? Pour qu'on continue à s'intéresser au Tour de France, pour qu'on continue à trouver de l'intérêt aux courses dans lesquelles il participe. Moi, j'ai envie de te dire non, parce que tu as convoqué les mecs qu'il va rejoindre avec 5 Tours de France sur la cheminée. Les gens qui ont vu courir Anquetil, les gens qui ont vu courir Hino, les gens qui ont vu courir Merckx.
Ah, Merckx, sur un tour, il a gagné 8 étapes.
Même Indurain. Ils te disent, ah là là, moi j'ai vu courir mer, c'était fabuleux. Et les gens s'en souviendront et les gens regretteront que Pogacar, si dominant soit-il, ne soit plus là. Ça, c'est pour la partie spectacle et nous, observateurs. Trop écrasant, pourquoi? Pour les autres? Ah ben oui, il est plus fort que les autres. Oui, c'est peut-être, tu l'as dit, on l'a symbolisé avec la petite prod, peut-être le plus grand coureur de l'histoire. C'est un jaguar, c'est un prédateur, c'est un danseur étoile, c'est un ours.
C'est un compétiteur.
Selon les terrains, ouais. Il arrive à se métamorphoser, c'est un caméléon et évidemment, il est imbattable sur tous les terrains. Mais moi, j'ai envie de croire, comme Marco le disait tout à l'heure, qu'il y a une densité derrière lui qui n'a jamais été aussi compacte, aussi forte. Et il n'est pas interdit de croire que tu as souligné que c'était le plus gros écart, peut-être, de ses victoires. Et oui, mais entre le 1 et le 2, en fait, il manque
Vingegaard.
Il manque Vingegaard qui aurait pu, peut-être, sait-on jamais, réduire un petit peu l'écart.
Lipovic qui a abandonné aussi.
Et finir peut-être à moins de 4 minutes, même si ça reste quand même des gros écarts. Et j'ai envie de croire qu'en troisième semaine, un Vingegaard, tu vois, on ne sait pas ce qui se serait passé. On a vu que Sepkus avait fini très fort. On a vu qu'il y a un petit nouveau, Lenny Martinez. Moi, j'aurais pas mis une pièce dessus. Mais qui s'est invité? Et voilà. Même un Evenepoel qui a envie de
très
se faire.
Très bon, Evenepoel, il a très bien.
Mais est-ce que tu ne sais pas te convaincre, Simon?
Tu ne sais pas te convaincre. C'est pas un peu la méthode Coué, là.
C'est pas l'essence de notre métier.
Oui, non, mais bien sûr.
Et du sport, de faire croire qu'il y aura du suspense et que le suspense n'est pas mort. Bon,
bien sûr.
Alors, à ce moment-là, il faut renoncer et arrêter de suivre le tour.
Christophe et Jérôme, avant de vous faire prendre le train, on entend de se préparer derrière. Non, mais est-ce que la course aurait pu différente, franchement.
La course, alors si Jonas Vingegaard n'avait pas chuté, la course aurait été différente, mais pas pour la victoire finale, pour le podium, parce que lui aurait couru différemment. D'ailleurs, le jour où il tombe en direction du plateau de Solaison, c'est son équipe qui roule depuis un bon moment, c'est qu'elle a un plan derrière la tête, mais je pense pas que ça aurait déstabilisé Tadej Pogacar. Ça aurait par contre changé la donne pour le podium derrière, mais ça on ne le saura jamais. Mais Tadej Pogacar, il est simplement au-dessus du lot. Je veux dire, il a une zone d'écart avec les autres. Quand les autres sont au seuil sur des puissances qui peuvent tenir une heure, bah lui il est dans la zone en dessous, donc c'est le seul qui peut attaquer. Mais ça a toujours été. Moi j'ai couru avec Contador, mais c'était la même chose. Quand nous on était au taquet limite à la zone rouge comme on dit, bah lui il était une zone au-dessus, il pouvait encore attaquer. Bah ça c'est le propre de tous les champions. Et tant qu'il sera à ce niveau-là, et moi ce qui me fait un peu peur, c'est que d'année en année il progresse encore.
Oui, c'est
avec Pogacar. C'est pas qu'il ait un plafond là où il est en train de stagner. Cette année il était plus fort que l'année dernière et encore plus fort qu'il y a deux ans. Donc rien ne nous fait dire que l'année prochaine il sera moins fort que là. Et en plus, il a une équipe ultra puissante avec des coureurs très bons, comme a dit Marc, ils arrivent à mettre tout le monde sous pression. Je veux dire, quand il reste 15 mecs, ils sont encore au moins 4 ou 5 de son équipe, bah, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Et c'est pas en changeant les méthodes d'entraînement. David, tu disais, on copie ce que fait Tadej Pogacar. Marc sera peut-être mieux placé que moi pour en parler. Mais non, pas tous les coureurs utilisent la même manière de s'entraîner que Tadej Pogacar, parce que personne ne va faire autant de kills que lui, personne va faire autant d'intensité, etc. Le plan d'entraînement, c'est individualisé par rapport à ton coureur, aux qualités de ton coureur, etc. Mais quand t'en as un qui est au-dessus du lot, tu vas pas essayer de le copier, tu vas essayer de trouver une méthode différente pour essayer de t'en approcher. Exactement. Mais pour l'instant, tous les autres coureurs, enfin Pogacar, il est seul sur sa planète, il a personne d'autre avec lui.
Chris, le mot de la fin avant de prendre le train.
Non, mais je pense que Jérôme a tout dit. En plus, Simon disait, oui, il y a 6 minutes d'écart s'il y avait Vingegaard. N'oublions pas en plus que Pogacar a fait l'équipier pendant 2 étapes. Je pense qu'il aurait pu faire monter son avance à 10 voire 12 minutes.
T'as raison.
Tellement il est supérieur aux autres sur ce Tour de France. Evenepoel a fait un tour magnifique, mais jamais il ne pourra espérer battre Pogacar en montagne, à moins qu'on fasse deux contre la montre de 100 bornes.
Merci Christophe.
Là peut-être ce sera la solution. C'est que ça, s'il lui faudra au moins 2-3 ans avant d'arriver peut-être à inquiéter
Del Toro. Voilà, on n'a pas la solution pour aujourd'hui mettre en danger et ne seulement faire un peu durer de suspense dans ce Tour de France. Il est trop dominant. Comme l'était Marx et comme l'ont été les autres.
J'ai peur pour vous. J'ai entendu deux fois les sifflets de la SNCF pour que vous preniez le train.
C'est le train qui part à Lyon, ça. On est tranquille. Faut pas qu'on se gourre.
Ah ouais, c'est ça. Oui, ne ratez pas. On a besoin de vous, les gars, pour rentrer à Paris comme les coureurs l'ont fait hier, d'ailleurs. Hein, le train pour vous retrouver dans l'intégral tour à 17h, les amis. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment ce soir, Christophe et Jérôme, et les Jérômes, évidemment, et Maria Zé et toute l'équipe avec trois passages sur la butte Montmartre. Ce sera Paris-Paris, hein, 89 km seulement aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Bon voyage, les amis de l'intégral tour. Nous, on continue de débattre avec les grandes gueules du sport et avec vous au 32-16. On vous donne la parole dans un instant. Pogacar est-il devenu trop écrasant? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, évidemment pour l'arrivée du Tour de France aujourd'hui à Paris. Pogacar est-il devenu trop écrasant? On en parle avec Simon Dutin, avec David Douillet, avec Marc Madiou. On vous donne la parole au 32-16 dans un instant. Tiens, je vais lire des messages sur WhatsApp au 06 12 424 424 parce que c'est important aussi qu'on ait cet échange. J'ai beaucoup de messages comme ça sur regardez la tête de Pogacar, il arrive tellement frais. Je suis triste que personne n'émette de doute chez vous. On va en parler tout simplement. En fait, nous, on n'a pas de preuves de quoi que ce soit pour seulement, on va dire, mettre en valeur des suspicions ou quoi que ce soit. Ce n'est pas notre métier, en fait. Ce n'est pas que nous, on est naïfs ou un truc comme ça. Nous, on observe, on se base sur des faits. Et aujourd'hui, les faits, on ne les a pas. C'est pas en regardant des lignes de watts ou des lignes de stats ou des temps de chrono battus ou pas que l'on va pouvoir émettre des doutes. Et je vous rappelle un principe, c'est la présomption d'innocence. Donc, ça veut pas dire qu'on est là dans la célébration bête et naïve. On observe et après, on en débattra quand il faudra. Mais ça me semblait important de tracer cette ligne aujourd'hui parce que nous, journalistes, on n'est jamais dans le bon rôle. Soit on est trop naïf pour certains, soit on est dans ceux qui ne respectent pas la présomption d'innocence. Donc comprenez aussi la complexité qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, on est là pour mettre en avant la victoire de Pogacar parce que c'est un fait. Il est cinquième, il a dominé ce tour du début à la fin. Charlie nous appelle de Mayenne. Ah, c'est ton ami Marc qui appelle à chaque fois dans les grandes gueules du sport, en habitué. Salut Charlie.
Salut l'équipe, salut à tous. Salut.
C'est toi qui nous écoutes sur le tracteur de temps en temps, non Charlie?
C'est ça, tout à fait.
Bah écoute, excellent. Merci, on adore évidemment avoir cette
image. Tu es d'où en Mayenne, tu es d'où?
Moi je suis à côté de Goron.
Ah ouais, Nord-Mayenne.
Nord-Mayenne, tout à fait, le Bocage. Voilà. Le Bocage qui ressemble à la savane en ce moment, avec assez stress.
Mais... ouais, oui, ouais, malheureusement, effectivement. Ouais.
Et puis, Charlie, un petit aparté, gros courage et grosse force aux collègues qui sont sur le front, en face au feu, avec les pompiers dans le sud-ouest, nos collègues agriculteurs qui sont là-bas, qui se battent avec les pompiers.
Voilà. Exactement. On l'a rappelé tout à l'heure, et ouais, effectivement, vrai. ce sont eux aujourd'hui qu'il faut mettre en avant, bien sûr, hein, dans les Landes et en Gironde. Charlie, ouais. Est-ce que tu trouves que Pogacar est trop écrasant? C'est notre débat depuis tout à l'heure.
Bah franchement, non. C'est juste le goût. C'est juste beau. Et c'est juste en plus, vous avez un peu tout dit, mais juste le fait de se dire qu'il en est encore sous la pédale pour. En fait, il se retient justement, et on sait tous pourquoi, il faut crever l'abcès. On se retient parce qu'il y en a qui le soupçonnent, qui lui crachent dessus et tout ça, par rapport au passé du cyclisme. Mais moi, ce qu'il fait, c'est beau, il est bon partout. Quand il fait une prépa pour les classiques, il prend 10 kilos de masse musculaire pour être aussi fort que Van Der Poel, que Wout, que Remco. Il sait tout faire, et comme vous avez dit, il a une marge de progression. Moi, je trouve ça juste beau. Vous avez parlé de Duplantis, vous avez parlé de Riner, on peut parler de Marchand, on peut parler de Bolt à l'époque. À chaque sport, à chaque époque, il y a le GOAT.
Toi, voilà. Tu le vois s'envoler dans le Tourmalet, tu kiffes, en fait. Tu te dis, mais quel mec.
Mais bien sûr. Ouais. Non, mais c'est trop beau. Et en plus, bon, c'est vrai que quand on vous écoute sur les watts et tout ça, ils ont peut-être un peu trop les yeux fixés là-dessus, mais il y a peut-être un peu moins de science de la course, comme dirait Marc, mais... Mais enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. Moi, je prends mon vélo pour aller chercher le pain. Je suis fatigué.
Non, mais...
C'est des athlètes, c'est de l'horlogerie suisse, c'est de la F1. Pareil, l'équipe du Tour, j'adore quand ils parlent de technique du vélo. On se rend pas compte la technologie qu'il y a sur un simple vélo. Enfin, c'est même pas un simple vélo, c'est une Formule 1. C'est trop beau, moi, j'adore. Vous nous faites rêver, ce sport fait rêver. Moi, je suis un fan du Tour de France depuis que je suis gamin. Voilà, ça rythme nos étés, nous, pendant qu'on est sur le tracteur, tu vois. Et c'est trop beau, c'est ce qu'on adore. Et vive les belles perfs, et vive Poggi. Et puis bravo à Paul Sexas qui est quatrième du Tour à son premier tour. Derrière,
on va en parler tout à l'heure.
Le plus grand cycliste de tous les temps. Donc, faut s'en réjouir, bordel. Sinon, enfin, on regarde plus le sport à la télé.
Tu sais ce qui est beau, c'est ton enthousiasme et ta passion qu'on entend dans ta voix, Charlie. David.
Mais la vraie question, c'est de se poser, c'est de se dire, est-ce que Pogacar a des failles? Et moi, je pense que oui, il en a. Ah il oui. en a des failles. Cette année, il a pas tout gagné.
Il a pas fini la minute non plus.
Non, je suis d'accord, mais il a pas gagné. J'ai encore dans la tête, on en parlait tout à l'heure, ces duels avec Vingegaard en 22-23 là, où il se faisait grignoter, où il se faisait croquer. Je pense que c'est un garçon. Ok, là, il est au firmament de. Peut-être pas encore à l'apogée, mais enfin, il est pas loin de l'apogée de sa forme d'athlète optimum. Mais je pense que si personne ne va le chercher, si personne ne l'attaque, s'il y a pas de stratégie de mise en place pour aller le déstabiliser, bah, il va se balader et il va continuer à enfiler des tours comme ça sans problème. Par contre, si on commence à lui polluer la tête, à lui donner le doute, même en perdant derrière, hein, c'est-à-dire que tu lui croques un peu le mollet, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, avec plusieurs athlètes qui font ça de manière diverse et éparpillée, bah, tu vas commencer à lui mettre le doute. Et ça sera peut-être un peu plus dur. Mmh. Et quand c'est un peu plus dur, bah, les choses sont différentes. Sincèrement, je pense que.
Mais David, c'est intéressant ce que tu disais. Tu dis que peut-être il a des failles parce qu'il a pas tout gagné. Il a pas gagné Roubaix. Marc, je te voyais écouter Jérôme Coppel tout à l'heure dire qu'il est peut-être encore plus fort qu'il ne l'a jamais été. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, il y a encore des trous dans la raquette? Parce que David, tu disais quand il perd contre Vingegaard, il avait pas l'équipe qu'il a aujourd'hui, notamment. Il était esselé. Et comme disait Charlie il y a quelques instants, maintenant il s'adapte aussi aux événements. Il arrive à jouer avec le poids. On a l'impression que il sait exactement où il va pour Pogacar, en fait. Est-ce qu'il a encore une marge de progression?
Oui,
même
il continue de progresser. Et je pense que ça a été un des premiers constats qu'a fait Vingegaard sur ce Tour de France. Vingegaard est sorti du Giro avec des convictions, avec des valeurs, en se disant « j'ai progressé, je vais forcément être au contact direct avec Pogacar dès que je vais me retrouver en confrontation directe ». Et malheureusement, d'entrée de jeu, il s'est rendu compte que lui avait certes progressé, mais que Pogacar avait encore progressé. Ce qui fait qu'à la sortie, ben, l'écart était toujours là, voire peut-être même encore un peu plus présent que précédemment. Et je pense que mentalement, Vingegaard en a pris un petit coup sur la tête à un moment donné en se disant, mais finalement, même moi, je progresse, mais l'autre, il continue à augmenter ses watts. Et ce qui fait que...
Toi, t'as couru avec Hino, Marc. Oui. Tu vois des similitudes, justement, sur la progression constante, sur...
La progression constante, mais...
L'envie.
Il y a une grande différence. Je pense que Pogacar, c'est un serpent qui utilise la modernité pour progresser et pour maîtriser et contrôler. Là où Bernard Hinault était plus dans l'instinct. Bernard, c'était un animal. Pour se défendre, il tuait l'adversaire et il ne tuait que quand il en avait besoin. Et il avait cette capacité à laisser venir quand ça l'intéressait pas trop. Mais quand
Pogacar, c'est un boa, quoi.
Ouais. Et Bernard était capable de se transformer du jour au lendemain quand l'instinct et quand la situation le demandait. Pogacar est quand même beaucoup plus félin, beaucoup plus c'est un serpent, il étouffe, il met sous pression et quand il envoie le venin, il y a plus grand chose à faire.
Thierry au 32-7 nous appelle du Gard. Salut Thierry et bienvenue dans les grandes gueules du sport. Non, il est pas là Thierry. Bah écoutez, je pensais qu'il était avec nous. Bon, on va le retrouver dans un instant. Je remercie Charlie de nous avoir appelé de Mayenne il y a quelques instants depuis son tracteur, hein, fidèle d'RMC. Est-ce que vous pensez que Pogacar va s'attaquer désormais à d'autres défis? Parce que souvenez-vous, si mon rappel l'année dernière, on se demandait s'il allait avoir encore envie. Il a retrouvé l'envie, Pogacar. Est-ce que toi, ça te ferait rêver de le voir s'attaquer aux trois grands tours, par exemple?
Bah évidemment, il faut faire ce qui n'a encore jamais été réalisé. Voilà, avec les caractéristiques Marc résumé, parce que c'est le propre de l'évolution de l'être humain, de l'évolution du sportif. Il réunit à peu près toutes les caractéristiques qu'on a pu observer chez des champions. C'est ce que je disais, danseur étoile en montagne, mais en même temps, quand il est sur la selle, il peut te rappeler un Jan Ullrich. Quand il roule très fort en classique, il te rappelle un Bernard Hinault. Il a tout ce qu'il faut pour gagner partout. Alors, en effet, pourquoi pas, même si ça attirera encore la suspicion, les critiques de gens qui préfèrent critiquer avant qu'on ait d'éventuelles preuves un jour qu'il y a eu de la triche. Oui, on a envie de le voir sur le Giro, sur le Tour, sur la Vuelta. On a envie, je pense qu'il joue aux fléchettes avec une carte de Roubaix, tu sais.
Là, c'est sûr, ça va être son obsession plus que jamais.
À la maison, donc on a évidemment tous envie de voir ça, comme on avait envie de le voir
gagner Milan-San Remo. Donc oui, maintenant, voilà, je pense que désormais, tu sais, c'est un petit peu comme dans le foot, t'avais les partisans de Messi ou de Ronaldo, et puis ou de Nadal et Federer en tennis. Bon, finalement, quand t'aimais pas l'un ou l'autre, si t'aimes le sport, t'as fini par poser le genou à terre. Mmh. Et je pense que plus la carrière de Pogacar va avancer, plus on va se prosterner, voilà, devant un des plus grands de l'histoire, et plus il va se rapprocher de la fin, et ben plus on va être attentif et admiratif de ses performances, et on arrêtera rapidement ces débats sur la lassitude ou le manque de suspense, la suspicion. On va avoir envie de le voir accomplir les exploits qui n'ont jamais été accomplis.
Le mot de la fin, Marc, sur ce sujet, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, moi je pense qu'il lui reste trois cases à remplir. Un sixième tour pour être le seul, ouais. Une Vuelta pour avoir les trois grands tours, et Roubaix. Quand il aura eu cela, je pense qu'il regardera du côté de la piscine à Monaco.
Ce qui est pas mal aussi hein, comme programme.
Ou pas,
peut-être qu'il va en gagner 10 ou 15.
Non, je crois pas. Je crois pas.
Moi, j'ai l'impression qu'il prend quand même beaucoup de plaisir, tant qu'il prendra du plaisir.
Oui, mais souviens-toi, l'an dernier, il avait dit le tour, on ne se rend pas compte, c'est usant, trois semaines.
Non, l'an passé, il s'est oublié sur le tour.
Ouais, il était malade.
Il avait un peu de suspense.
Là, je pense qu'il a pris davantage de plaisir sur ce Tour de France, et c'est peut-être ce qui va lui permettre de continuer jusqu'à la Vuelta de cette année.
Peut-être parce qu'il est déjà un peu dans la transmission, on l'a eu avec le Toro, son petit poulain.
La succession.
Ouais. Non, mais ça va être intéressant évidemment de suivre. Vous savez, Remco Evenepoel a dit hier, la question lui a été posée, qu'est-ce qui vous manque pour gagner le Tour de France ? Ce serait que Pogacar ne se présente pas au départ. Voilà, il a été très clair. Le Belge, deuxième du général. Paul Sexas, quatrième. On va en parler tout à l'heure. Est-ce que Sexas a répondu à vos attentes hein ? Vous vous inscrivez déjà au 32-16 pour participer au débat. Il y avait beaucoup de messages sur WhatsApp, évidemment sur ce sujet Pogacar. Je vous le disais, beaucoup sur la facilité, un peu effrayant. On les entend ces messages, on les relaie, on en parle ensemble. Mais évidemment. Aujourd'hui, on va accueillir Pogacar et c'est lui qui sera le grand vainqueur sur les Champs-Élysées, qui va recevoir le maillot jaune des mains de Christian Prudhomme, le directeur du Tour.